Alors souvent l'été, dans différents lieux, vous avez le quiz de l'été. Alors je vous propose une petite question avant de commencer cette prédication. Quel est le point commun de ces images? Ok, il y a la barbe. Ouais. Le regard. Ok, ok. Ok, des hommes, oui, oui. En fait, ce sont toutes ces images sont des représentations de Jésus au cinéma. Mais peut-être que vous l'aviez trouvé, vous l'aviez peut-être remarqué. Hein. Quand on veut représenter Jésus au cinéma, ben, il nous faut donc choisir un acteur. Et au-delà du choix de l'acteur avec son physique, son look, il y a aussi la façon de le mettre en scène et puis d'interpréter le personnage de Jésus. Et ça doit être un vrai défi. Je pense que aucun film n'a réussi à relever ce défi. La tâche est bien compliquée. Les évangiles se centrent sur les enseignements, les actes de Jésus, notamment ses miracles, mais aussi et surtout sa mort et sa résurrection. Et finalement, jouer tout cela ne doit vraiment pas être facile. On ne sait rien sur l'apparence de Jésus. Mais on connaît quand même son caractère, quelques aspects de son attitude envers les autres, parfois de manière discrète dans les évangiles, on a une petite allusion, et cela nous en dit long. C'est le cas d'une phrase très courte, et qui constitue même le verset dont on aime rappeler que c'est le verset le plus court de la Bible. Ça, on montrera ça après. En Jean 11, 35, sujet-verbe, Jésus pleura. Mais alors justement, c'est une petite parenthèse, on est encore un petit peu dans l'introduction du vif du sujet. Est-ce que c'est bien le verset le plus court de la Bible? Parce qu'on aime bien, on est tout fier de le savoir et de le dire. Mais que doit-on prendre en compte pour dire que c'est le verset le plus court? Est-ce que c'est le nombre de mots, alors là oui, là il y en a deux, je pense qu'on peut difficilement faire moins. Est-ce que c'est le nombre de lettres? Et dans quelle langue? Est-ce qu'on va regarder en français? Est-ce qu'on va regarder en grec? Le verset le plus court en nombre de lettres dans l'original en grec, c'est un verset, figurez-vous, qui dit presque l'inverse de « Jésus pleura ». C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qu'on a traduit en français « Soyez toujours joyeux », qui comprend seulement 14 lettres en grec, et contre 16 pour le verset qui nous dit « Jésus pleura ». Selon le découpage aussi des versets, qui peut varier, on montrera le tableau récapitulatif à la fin, selon le découpage des versets aussi, qui peut varier à certains endroits, on a même Luc 20, verset 30, avec seulement 12 lettres, et ça a été traduit en français et dans la Tobe, par exemple, c'est traduit « le second ». Alors bien sûr, ça ne veut rien dire, juste « le second », mais on a découpé les versets d'une certaine manière un petit peu étrange dans certaines versions. Donc c'est un cas où le second est le premier, c'est le plus court, mais pas dans la version second. Et sinon, le verset le plus court en nombre de lettres en français pourrait être « ne vole pas », le commandement dans Exode 20, verset 15. Alors bien sûr, ça ne marche pas si on traduit « tu ne déroberas point ». Là, c'est beaucoup plus long. Pas évident de déterminer quel est le verset le plus court, il faut fixer des critères, et donc je vous mets tout ça dans un tableau, on peut afficher maintenant le tableau récapitulatif, et s'il y en a qui sont motivés, ben je vous intéresse à faire le travail, en nombre de syllabes par exemple, j'ai fait le nombre de mots, le nombre de lettres, mais on pourrait dire le nombre de syllabes, en nombre de mots en français, c'est bien Jean 11, 35, qui est le verset le plus court. Jésus pleura. On peut regarder, voilà, cette statue, peut-être vous l'avez déjà vue, elle n'est pas en France, c'est une statue qui a été érigée suite à l'attentat d'Oklahoma City aux États-Unis, qui a fait 150 morts en 1995. Et c'est au centre d'un mémorial qu'a été érigée cette statue. Qu'est-ce que cette toute petite phrase peut nous dire de Jésus ? Pour le comprendre, il faudra bien sûr replacer la phrase dans son contexte et on va lire quelques versets dans un instant. C'est ce chapitre de l'évangile de Jean qui évoque l'un des miracles les plus impressionnants de Jésus puisqu'il s'agit de la résurrection de Lazare. Un jour, on vient trouver Jésus pour lui dire qu'un de ses amis, Lazare, est malade et qu'il risque de mourir. Mais Jésus ne se presse pas pour se rendre à son chevet. Il tient des propos que ses disciples ne comprennent pas vraiment, jusqu'à ce qu'il finisse par leur dire clairement « Lazare est mort ». Ils se rendent alors à Béthanie, là où habitait Lazare, et à proximité de la ville, Marthe, l'une des sœurs de Lazare, vient à sa rencontre et lui reproche à demi-mot de ne pas être venu plus tôt. Mais Jésus lui dit que son frère va ressusciter. Ce que Marthe a du mal à comprendre, évidemment. Elle pense que Jésus parle de la résurrection des morts à venir, à la fin des temps. Marthe va alors avertir Marie, sa sœur, que Jésus est arrivé, et je vous propose de lire le récit à partir de là. Jean 11, versets donc 31 à 44. Quand les Juifs, qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait !» Mais quelques-uns d'entre eux disaient « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre !» dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, répliqua « « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix très forte, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus pleura, et il n'est pas le seul à pleurer dans ce récit. C'est bien normal, un homme vient de mourir, tous les proches sont dans le deuil et pleurent. Jésus aussi pleure. Et ce n'est pas une précision anodine, je pense que ces pleurs de Jésus sont au contraire riches de sens à propos de qui il est. Les pleurs de Jésus, notre frère. Les pleurs de Jésus sont tout d'abord sincères et authentiques. Ce tout petit verset est un des plus beaux et des plus forts pour décrire aussi la pleine humanité de Jésus. Quand on lit les évangiles, on y découvre Jésus comme notre frère, partageant pleinement notre humanité. Jésus, bien sûr, parle, il mange, il boit, il dort, il marche, il se réjouit, il souffre, il prie, et même il pleure, dans ce verset, et dans d'autres versets également. Voir Jésus pleurer, c'est donc mesurer sa compassion, son empathie, sa proximité avec nous. Jésus n'était pas le Superman qui vient régler tous les problèmes avec un grand sourire. Il partage la souffrance, il est proche. Jésus n'est pas froid, il n'est pas distant. et il ne retient pas non plus ses larmes. Par lui, Dieu lui-même s'est approché au plus près de nous. Il a partagé notre humanité. Cette toute petite phrase, « Jésus pleura », est un signe justement de l'incarnation du Fils de Dieu, de sa pleine humanité. Une humanité marquée par la souffrance, une souffrance de laquelle il n'a pas été exempt. Jésus manifeste donc qu'il est notre frère, dans le sens le plus complet du terme. Deuxième chose, Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Les gens sont étonnés de voir Jésus pleurer. Mais ils comprennent le sens. Voyez comment il l'aimait. Jésus pleure parce qu'il aimait Lazare, il aimait la famille de Lazare, et il pleure parce que Lazare est mort. Premier sens. Ça peut paraître logique. Jésus pleure parce que Lazare est mort. Avait-il tort ou raison ? Évidemment, c'est délicat de se mettre à la place de Jésus, de décrypter dans le moindre détail ses émotions si les raisons de ses pleurs nous ne sont pas données. Mais voyant la compassion de Jésus dans tellement d'autres passages, nous ne pouvons pas écarter que Jésus pleure tout simplement en s'associant pleinement à la tristesse de la famille. Comme on l'a dit plus tôt, Jésus savait déjà que Lazare était mort. Il l'a dit à plusieurs reprises dans le récit, plus tôt dans le récit, même si les disciples ne comprenaient pas ce qu'il dit alors. Jésus n'apprend pas la mort de son ami à ce moment-là. Il sait déjà même qu'il va le ressusciter. Alors c'est d'ailleurs, je me souviens une fois d'une question comme ça d'un ado justement dans une colonie de vacances qui disait mais pourquoi justement Jésus a de telles émotions si justement il connaît la fin, hein, l'issue. Et je me souviens que quelqu'un lui avait répondu eh bien c'est comme quand on regarde un film. Des fois on regarde un film et on connaît la fin du film. Peut-être il se finit bien ce film, mais au moment où c'est triste, même si on a déjà vu le film, et même si on sait que ça se finit bien, on va être touché quand même. Eh bien Jésus est de ces personnes qui se laissent toucher même s'ils savaient la fin. Il va ressusciter Lazare, il l'a déjà dit à ses disciples et à Marthe. Et d'ailleurs, dans sa prière, au verset 41, il dit « Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Il n'y a pas le moindre doute dans la prière de Jésus. Il sait que Lazare va revenir à la vie. Il sait qu'il va retrouver son ami. Il est donc peu probable que Jésus pleure uniquement parce qu'il a perdu Lazare. Peut-être que pour lui aussi, pour Jésus, c'est différent que pour nous. Il le dit d'ailleurs, il dit Lazare est mort, mais peut-être que la mort pour Jésus n'est pas cette limite de laquelle on ne peut pas revenir. N'oublions pas qu'il est le Seigneur. C'est en voyant les proches de Lazare pleurer que Jésus se met à pleurer. Le verset 33 nous dit « Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Et c'est bien ce trouble qui finit par le faire pleurer, au verset 35. Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Il partage sincèrement leur tristesse. Il fait tout simplement preuve donc, d'empathie, comme on aime le dire aujourd'hui, l'empathie, la compassion. Et il ne peut pas rester insensible au chagrin des autres. Lui-même a enseigné dans les béatitudes, oui, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils sont sensibles. Et il a enseigné de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous croyons que Nous qui croyons que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose de lui aujourd'hui. Il n'est pas insensible à notre peine, à notre chagrin, et par son esprit, aussi qui vit en nous, il veut nous témoigner cette compassion. Il va partager nos émotions, se réjouir quand on se réjouit, pleurer lorsqu'on pleure, et on peut compter sur cela, sur sa compréhension à chaque instant. Mais vous avez remarqué que ce n'est pas la même émotion, en tout cas dans la traduction que je vous ai lue là, que Jésus a. Il y a aussi des pleurs, mais aussi de la colère. Par deux fois, le récit parle de la colère de Jésus. Au verset 33, « Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. » Et de nouveau au verset 38, « Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. » Qu'est-ce qui peut troubler ainsi Jésus et même le mettre en colère? C'est une traduction en tout cas possible. Ce ne sont pas les pleurs des gens, ça c'était sa compassion, c'est ce qui l'a fait aussi pleurer. Est-ce que Jésus était tout simplement en colère de la mort, peut-être, et de ses conséquences? Il voit les effets de la mort sur toute une famille, et il est en colère contre cela, parce qu'après tout, à la croix, il va aussi être victorieux de la mort. Il est en colère en voyant les proches dévastés. Il est en colère devant le tombeau qui renferme le corps de Lazare. Et Jésus ne se résout pas à accepter la mort et cette douleur profonde qu'elle inflige. Il n'oublie pas que c'est l'ennemi à vaincre. Et c'est pour cela qu'il est venu sur terre, pour vaincre la mort. Et là, il arrive dans une famille où la mort semble triompher. Il voit la douleur qu'elle inflige à ses frères et sœurs. Il ne supporte pas cette douleur et cela le met en colère. Dans la colère et les larmes, il va donc montrer qu'il est victorieux sur la mort. Il prie avec une parfaite assurance et il appelle Lazare pour qu'il sorte du tombeau et Lazare revient à la vie parce que personne ne peut résister à l'ordre du Seigneur. C'est un avant-goût aussi, un signe que Jésus lui-même reviendra à la vie, d'ailleurs de façon différente que Lazare, puisque Lazare, après, il est mort, il est remort, alors que Jésus, lui, est vivant pour l'éternité. Mais on a déjà un avant-goût de cette vie qui ne s'arrête pas. C'était pour Lazare, on va dire, une simple réanimation pour un temps seulement et pas encore une résurrection définitive, une victoire totale sur la mort, mais en tout cas, on a déjà le signe de cela. Et enfin, les pleurs de Jésus sont une bonne nouvelle. Alors, on vit dans une société où on va mettre en avant plutôt les choses qui sont fortes. Quand on va résister, peut-être même aux larmes, quand on va être fort dans l'épreuve, ne pas laisser transparaître la moindre faiblesse. On est dans une société qui valorise plutôt cela. Alors est-ce que Jésus manifesterait ici de la faiblesse, une forme de faiblesse, en pleurant ? Jésus pleura, et cette simple affirmation, replacée dans le contexte de l'évangile de Jean, est une bonne nouvelle en réalité pour nous. Elle ne nous montre pas la faiblesse de notre Sauveur, mais peut-être justement, il y a derrière ces pleurs une force toute puissante cachée. Elle nous dit que Jésus est devenu notre frère pour partager nos pleurs et vaincre la mort. Il nous offre une consolation en partageant nos souffrances. Il nous donne une espérance en triomphant de la mort. Et ça, c'est fort. Ce n'est pas faible. consolation, espérance. Voilà les choses les plus précieuses que nous apporte la foi en Jésus-Christ. Dieu ne nous promet pas d'échapper à la souffrance et à la tristesse. Il nous promet la consolation par sa présence à nos côtés. Il n'a pas eu peur aussi de pleurer avec ceux qui pleurent, de manifester sa tristesse. C'est peut-être le risque qu'on prend quand on pleure, c'est celui de l'amour, c'est celui de la compassion que Jésus a manifesté. Et il nous promet aussi qu'un jour, la victoire sera totale. La tristesse, le deuil auront disparu. Plus de souffrance, plus de larmes, plus de mort. C'est la vie qui vaincra par la victoire du Christ, mort et ressuscité. Alors nous pouvons à notre tour aussi puiser dans cette consolation et cette espérance, puiser une force, non seulement pour affronter nos épreuves, mais pour nous tenir aussi à côté de notre prochain qui lui aussi souffre et lui manifester la compassion de Jésus. C'est le rôle aussi du Saint-Esprit dont une des fonctions est de nous rappeler les paroles de Jésus et les appliquer à notre vie. Par le Saint-Esprit, nous pouvons, comme Jésus, pleurer avec ceux qui pleurent. Et ce ne sera pas là un signe de faiblesse. Nous pouvons aussi, grâce au Saint-Esprit, qui atteste à notre cœur les paroles de Jésus, nous pouvons témoigner que notre espérance ne dépend pas des circonstances de notre vie, mais des promesses de Dieu. C'est une des leçons que Jésus veut aussi donner à Marthe et Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a peut-être des choses difficiles, mais Jésus, lui, a promis un avenir merveilleux. Oui, les pleurs de Jésus sont une bonne nouvelle. Il est celui qui vient partager notre vie, qui nous accompagne. Comme j'ai mis dans le petit résumé du Code 9, il n'est pas comme Bouddha qui est représenté sur les statues comme quelqu'un assis en tailleur dans la position un peu qu'on dit du lotus, avec des fois fermant les yeux même, et avec un léger sourire. Et il est éternellement comme ça, disons éternellement, on se comprend, il est comme ça tout le temps. Jésus n'est pas comme ça tout le temps. Il partage nos moments de pleurs et il se réjouit lorsqu'on se réjouit. Il ne ferme pas les yeux devant la souffrance, mais il vient la porter et apporter une solution. Jésus est devenu notre frère pour partager nos pleurs et vaincre la mort. Il nous offre une consolation en partageant nos souffrances. Il nous donne une espérance en triomphant de la mort. Amen.